Alors, maintenant, nous allons lire ce qu'il faut faire pour réaliser ce qui a été exprimé dans les cinq phrases précédentes. Transforme ta raison en une intuition ordonnée. Que tout en toi soit lumière. Tel est ton but. Transforme l'effort en un flot régulier et souverain de force d'âme. Que tout en toi sois force consciente. Tel est ton but. Transforme la jouissance en une extase continue et sans objet. Que tout en toi soit félicité. Tel est ton but. Transforme l'individu divisé en la personnalité universelle. Que tout en toi soit divin. Tel est ton but. Transforme l'animal en le conducteur des troupeaux, que tout en soi, toi, soit Krishna. Tel est ton but. Ceci, c'est ce qui doit être fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, que c'est assez clair, à moins que vous n'ayez des questions. Oui, eh bien, pose ta question alors.
Ici c'est écrit, transforme la jouissance en une extase continue et sans objet.
Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de cause. D'habitude, n'est-ce pas, on a un plaisir ou une joie ou une jouissance à cause de ceci ou à cause de cela. Depuis les choses matérielles jusqu'aux choses psychologique ou même mental. Par exemple, pour prendre une chose mentale, on lit une phrase qui vous donne une grande joie parce que cela vous apporte une lumière, une compréhension nouvelle. Alors, cette joie-là, c'est une joie qui a un objet. C'est parce que vous avez lu cette phrase que vous avez cette joie. Si vous n'aviez pas lu la phrase, vous n'auriez pas eu la joie. Ou si vous n'aviez pas entendu une phrase ou des mots, vous n'auriez pas eu de joie. De la même façon, quand vous entendez une belle musique ou que vous voyez un beau tableau ou un beau paysage, cela vous donne de la joie. Sans ces choses-là, vous n'auriez pas eu cette joie-là. C'est sans ces choses qui vous ont donné la joie. Ça, c'est une joie qui a un objet, qui a une cause. Ce qu'il dit, c'est que cette jouissance-là, cette joie-là, ce plaisir, de quelque degré qu'il soit, élevé ou inférieur, il faut que ce soit remplacé par une félicité intérieure qui se communique à tout l'être et qui est continue. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'aucune raison, d'aucune cause pour être. La cause provient du contact avec la félicité divine qui est partout et en toutes choses. Alors, une fois qu'on est en rapport avec cette félicité universelle et éternelle, on n'a plus besoin d'avoir un objet extérieur, une cause extérieure pour avoir la joie. Elle est sans objet. Et étant sans objet, elle peut être continue. Quelles que soient les circonstances extérieures, quoi que ce soit que l'on fasse, eh bien, on est dans le même état de joie, parce que cette joie ne dépend pas des choses extérieures qui viennent à vous, elle dépend de votre condition intérieure. On a trouvé la source de la joie en soi-même, c'est-à-dire la présence divine, la communion avec le divin. Et ayant trouvé cette source de joie en soi-même, on n'a pas besoin d'aucune chose extérieure, quelle qu'elle soit, pour vous donner cette joie. Et comme ça n'a pas de cause, ça ne cesse pas. C'est une condition constante. Pas très bien, si. Quelqu'un d'autre a une question sur ce que je viens de lire?
Le dernier.
Transforme. Oh, c'est une image. L'animal, ce sont tous les instincts de l'être physique, les besoins de l'être physique et toutes les habitudes, toutes les impulsions, tous les mouvements de l'être physique. Les besoins de nourriture, les besoins de sommeil, les besoins, n'est-ce pas, les besoins d'activité, enfin tout ce qui constitue les besoins de l'être physique qui est la partie animale de l'être. Et alors, il donne l'image, n'est-ce pas, de Krishna qui est considéré comme, qui est décrit comme conduisant les troupeaux, ce qui est seulement une image. Ça veut dire la conscience divine qui prend possession de toutes les activités de l'être physique et qui dirige et conduit toutes ces activités, tous ces besoins, qui contrôle et qui gouverne tous les mouvements de l'animal physique dans l'homme. Alors il donne, n'est-ce pas, il l'exprime selon la on pourra après la mythologie indienne, n'est-ce pas, prenant Krishna comme le symbole du divin, et les troupeaux comme le symbole des instincts animaux de l'homme et des besoins animaux de l'homme. Alors, au lieu d'être une des bêtes du troupeau, on devient celui qui conduit les troupeaux et qui gouverne tous ces mouvements, au lieu de se laisser dominer par eux. Tous les mouvements de... Je dis tous les besoins et toutes les activités de la vie physique. Tous les besoins physiques, n'est-ce pas? On est lié. Dans la vie ordinaire, on est lié à toutes ces activités, à tous les besoins qu'ils représentent. Comme je dis, ceux qui sont le plus connus, ce sont les besoins de nourriture, de sommeil, d'activité, de repos, etc. Eh bien, au lieu d'être l'animal, c'est-à-dire celui qui subit ces choses et est obligé de s'y soumettre, on devient le conducteur du troupeau, qu'il appelle Krishna, et qui est le divin qui prend possession de tous les mouvements de l'être et qui les guide et les conduit selon la vérité divine. C'est ça l'image.
Lorsqu'on a la personnalité universelle.
Hein?
Lorsqu'on a la personnalité universelle.
Oui. On n'a pas besoin de... Elle a mis sa question ici.
Non. C'est quelqu'un qui a passé.
Quand on a la personnalité universelle...
Oui, c'est ce qui est dans la phrase précédente. La personnalité universelle. Alors...
Est-ce qu'on n'a pas besoin de la personnalité individuelle?
Est-ce qu'il faut le faire? Besoin? Je ne comprends pas.
Quand on a la personnalité universelle, est-ce qu'on n'a plus besoin de personnalité individuelle?
Mais c'est la personnalité individuelle qui se transforme en personnalité universelle. C'est le sens de l'individu, n'est-ce pas? Tel qu'il est ordinairement, de cet individu tout à fait limité, qui est une petite personne, au milieu de tant de millions et de millions d'autres, une petite personne séparée. Au lieu de se sentir comme ça, c'est cet individu séparé, comme il dit, isolé, n'est-ce pas, cette petite personne au milieu de toutes les autres, qui prend conscience de l'individualité universelle, de la personnalité universelle, et qui naturellement devient divine. Mais c'est une transformation. C'est une chose qui se transforme dans l'autre. Il ne veut pas dire qu'on perd son corps. Ce n'est pas, il ne parle pas du corps. Quand il parle du corps, c'est dans le dernier. Il parle de la conscience vitale. La conscience psychologique. Le sens de l'individu séparé. N'est-ce pas? Toi, tu es une personne au milieu de tant d'autres. Mais au lieu d'être comme ça, on se sent la personne universelle. Ce sens de division et de séparation s'en va. Cette limite disparaît. Mais on reste dans son corps. Il n'a pas nécessairement perdre son corps. Le corps est une autre chose. Et c'est le corps dont il parle dans le dernier. quand on devient une conscience divine, une personnalité divine, alors on peut devenir le maître de toutes les activités corporelles. Parce qu'on est, on lui est supérieur et on n'est pas lié à ses activités, on n'est pas soumis à ses activités, on les domine. Alors, on a une conscience plus grande que la conscience de l'individu, du petit individu séparé. Alors on n'est plus, on peut faire juste un progrès de plus, et au lieu d'être soumis à tous ces besoins animaux de l'être, on les domine. Mais ce n'est pas deux consciences qui se superposent, c'est une conscience qui se transforme en une autre. Quoi, je ne comprends pas du tout. Regarde, elle est absolument égoïste. Tu te demandes comment, dans un corps comme ça, on peut être autrement que tu n'es. Eh bien, on peut. C'est une chose qui peut t'arriver. Ça, c'est le complément de ta question, justement. On me demande quels sont les traits caractéristiques d'une personnalité universelle. Les traits, les caractéristiques, c'est justement ce changement de conscience. Au lieu de se sentir comme une petite personne, isolée, séparée des autres, on se sent une personne universelle, contenant et intimement unie et identifiée à toutes les autres. Alors on me demande comment il parle et comment il agit, comment cette personnalité parle et agit. Parler. La question n'est pas très bien posée parce que si on demande comment elle parle, bien, elle parle comme tout le monde parle, avec sa voix, sa langue, sa bouche et des mots. Si on disait quelle est la nature de ce qu'il dit, évidemment, s'il exprime l'état de conscience dans lequel il est, il exprime un état de conscience universel. Et voyant les choses d'une manière différente de l'humanité ordinaire, il l'exprimera différemment, selon ce qu'il voit et ce qu'il sent. Quant à agir, si toutes les parties de son être sont d'accord, évidemment, son action exprimera son état de conscience. Maintenant, il y a des gens qui ont des expériences très décisives dans une partie de leur être et qui ne se traduisent pas nécessairement, ou en tout cas immédiatement, dans les autres parties de son être. Il se peut très bien que quelqu'un par sadhana ou concentration ou par la grâce, soit arrivé à une personnalité, à la conscience d'une personnalité universelle, continue à agir physiquement d'une façon tout à fait quelconque, ordinaire, parce que il n'a pas pris le soin d'unifier tout son être et qu'une partie de lui est consciente universellement et que dès qu'il se met à manger, dormir, marcher, agir, il le fait comme tous les animaux humains parce qu'il n'a pas pris soin de s'identifier. Ça peut arriver. Par conséquent, c'est encore une question purement personnelle, ça dépend de chacun, de son degré de développement. Mais si c'est un être qui a pris soin de s'unifier, d'identifier toutes les parties de son être à la vérité centrale, alors naturellement il agira avec seul, avec une absence totale d'égoïsme, avec une compréhension des autres, qu'il aura une compréhension qui lui viendra de son identification avec les autres, et il agira en conséquence comme un sage. Et ça dépend de si on a pris soin d'unifier tout son être autour de la conscience centrale. Par exemple, en prenant les choses les plus positivement matérielles, comme la nourriture et le sommeil, il se peut très bien, s'il n'a pas pris soin d'infuser, pour ainsi dire, sa nouvelle conscience dans son corps, que son besoin de nourriture et que son besoin de sommeil restent à peu près le même et qu'il n'ait pas beaucoup de contrôle sur eux. Au contraire, si il a pris soin d'unifier son être, et s'il a infusé sa conscience dans les éléments de son corps, constituant son corps, eh bien son sommeil sera un sommeil conscient et d'ordre universel. Il pourra à volonté savoir ce qui se passe ici ou là, en celui-ci ou en celui-là, dans ce coin du monde ou dans un autre. Et sa conscience, naturellement, étant universelle, le mettra en contact avec toutes les choses qu'il voudra savoir. Au lieu d'avoir un sommeil inconscient et inutile, excepté au point de vue purement matériel, il aura un sommeil productif et tout à fait conscient. Pour la nourriture, ce sera la même chose. Au lieu d'être l'esclave de ses besoins, dans une ignorance généralement assez totale de ce dont on a besoin, eh bien, il sera parfaitement conscient à la fois des besoins de son corps et du moyen de les dominer. Il pourra contrôler ses besoins et les gouverner, les transformer, suivant la nécessité de ce qu'il voudra faire. Mais ça, ça demande une grande maîtrise de soi et la réalisation du dernier paragraphe. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en dessous, soumis aux lois de la nature, dominé par ces lois et contraint à s'y soumettre, faute de quoi on est complètement déséquilibré. Au lieu de ça, alors on devient le maître, on regarde ces choses d'en haut, on sait la vérité de ces choses et on l'impose, pour ainsi dire, au corps qui, normalement, doit les adopter sans difficulté. Quelque chose d'autre sur le même sujet.
C'est que veut dire intuition ordonnée.
Hein?
Intuition ordonnée. C'est dans le premier.
Dans le premier.
Non,
intuition pas... ordonnée. Parce que ça veut dire ceci. Au début, quand on entre en contact avec le domaine de l'intuition, c'est une sorte de contact spasmodique. C'est-à-dire que, de temps en temps, pour des raisons plus ou moins explicables ou conscientes, tout d'un coup, on a une intuition, on est pénétré par l'esprit de l'intuition, mais ce n'est pas méthodique, organisé et à volonté. Dans un cas ou dans un autre, pour une raison ou pour une autre, on est tout d'un coup en contact avec le domaine de l'intuition et on a une intuition ou des intuitions. Mais ce n'est pas un phénomène qui se produit à volonté, qui est organisé et qui obéit à une volonté centrale. Tandis que ce qu'il dit, n'est-ce pas, si la raison tout entière se transforme, il parle de transformation, si la raison se transforme en l'essence même, la substance de l'intuition, alors, tout le mouvement intérieur, mental intérieur, devient un mouvement d'intuition qui s'organise comme on organise sa raison. C'est-à-dire qui entre en activité à volonté, répond aux besoins et se produit d'après un système méthodique. Ce n'est pas une chose qui apparaît et disparaît, on ne sait ni comment ni pourquoi. Mais c'est le produit de la transformation de la raison qui est la partie supérieure du mental humain, de la transformation de cette raison en une lumière plus haute que la lumière mentale, une lumière d'intuition. Alors ça devient organisé, ordonné, organisé au lieu d'être spasmodique et sans coordination. C'est tout. Plus rien. Hein? Bon, alors.